Bonjour Sœur Anne.
Bonjour.
Vous êtes supérieure du centre Assomption à Lourdes. Vous êtes en compagnie de Daniel Peset. Bonjour à vous, Daniel
Bonjour.
Peset. Vous êtes laïque et bénévole au centre Assomption, un bénévole très actif. Vous ne dormez pas au centre Assomption, mais presque. Hein. Vous y passez vos journées, je crois, pour rendre maintes et maintes services. Alors, nous parlons avec vous cette semaine de Marie-Eugénie et Thérèse Emmanuel, qui sont fondatrices et cofondatrices de la congrégation des Sœurs de l'Assomption. Hein, et on fête cette année le bicentenaire de leur naissance. Voilà pourquoi vous êtes
oui.
Avec nous cette semaine. Alors, on va parler aujourd'hui de leur dévotion à Marie. Hier, on a parlé un peu du charisme hein, de votre congrégation. La dévotion à Marie fait partie quand même si vous êtes assez centré sur le Christ, c'est quand même un des piliers, la dévotion à Marie.
Oui, tout à fait. C'est vrai que le nom de religieuse de l'Assomption pourrait nous faire penser que on est marialiste, si on
oui,
peut dire.
Bien sûr.
Mais le Christ est premier, mais en même temps, Marie fait partie de celle qui nous aide à aller au Christ, de celle qui nous aide. Et le mystère de l'Assomption, c'est un peu notre modèle, entre guillemets, j'ai envie de dire, de cette femme qui s'est laissée transformer par la parole de Dieu, par sa foi en Dieu, par la vie de Dieu en elle.
Donc Marie-Eugénie s'est laissée aussi
complètement
transformée par cette parole de Dieu.
Complètement.
Quelle place avait la Sainte Vierge dans la vie et dans la conversion des deux fondatrices là ?
Pour Marie-Eugénie, c'est une belle histoire. Vous vous souvenez Marie-Eugénie avait dit « J'ai été élevée dans une famille incrédule ».
Oui.
Donc effectivement, elle a un grand amour pour le Christ, mais pour la Sainte Vierge, pas grand-chose. Donc le père Combalot, quand il la rencontre en 1837, il lui pose la question hein, « Avez-vous une grande dévotion à la Sainte Vierge ?» Et elle lui dit « Pas autant que je le voudrais ».
Alors, parce qu'elle ne la connaît pas.
Parce qu'elle ne la connaît
oui.
pas. Et puis elle le dira, mon peu de tendresse pour la Sainte Vierge était vraiment une désolation. C'est une souffrance pour elle. Mais bon, rien ne la porte vers Marie. Jusqu'au Noël 1842, où là, d'un seul coup, là aussi c'est toujours, on parlait de la conversion tout à l'heure, c'est instantané. D'un seul coup, elle sent cet amour de Marie. Et peu de temps après, elle va être amenée à accompagner une sœur, sœur Marie-Joseph, qui est atteinte de la tuberculose et qu'elle va emmener près des Aubonnes, près de Gourette, dans loin de chez nous. Et elle va en profiter pour aller faire un pèlerinage. Un pèlerinage où le grand sanctuaire marial, à cette époque-là, en 1843, c'est Bétharam.
Et oui, évidemment, ce n'est pas encore Lourdes et Bétharam, et on oublie souvent de rappeler que Bétharam était le grand sanctuaire marial de cette époque.
Voilà, c'était un grand sanctuaire depuis l'histoire du sanctuaire remonte au XVe siècle, donc il y avait effectivement une grande ferveur, des pèlerinages, et puis rappelons que Bernadette Soubirou, eh bien, elle allait souvent à Bétharam, et elle a acheté son premier chapelet à Bétharam, en 1856. Marie-Eugénie ira deux fois, une fois en 1843, une fois en 1856, en pèlerinage à Bétharam. Et là, je veux dire, je pense qu'elle a cet amour pour Marie, et va le cultiver, il va grandir. Et voilà. Et donc, il y aura une vraie dévotion dans la congrégation pour Marie.
Une dévotion qui se poursuit encore aujourd'hui. Comment vous recevez et vous entretenez cet héritage, Sœur Anne ?
On parle pour la liturgie, où on fête toutes les fêtes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toutes les fêtes mariales qui nous rejoignent. Et moi, je suis touchée aussi par ce qui est présent dans notre règle de vie, dans ce qui fait notre vie. Et je me dis, j'aurais presque envie de vous lire quelques versets.
Mais allez-y,
parce que
allez-y.
Je trouve que moi, ça me parle beaucoup. Par exemple, on dit, dans chaque chapitre de la règle de vie, il y a un paragraphe. Et on dit, comme Marie, les sœurs s'ouvrent aux joies et aux souffrances de ceux qui les entourent avec respect et compassion. Elles manifestent ainsi concrètement que Dieu aime chacun tel qu'il est. Et voilà, je trouve que c'est là où moi je puise la force, la dévotion à Marie, et comme Marie, comme modèle, comme celle qui nous montre le chemin, quelque part.
Est-ce que pour Thérèse Emmanuel et Marie-Eugénie, Marie n'était pas aussi quelque part un petit peu la maman retrouvée, leur mère dont elles ont été séparées quand même assez tôt, est-ce qu'elles ne retrouvent pas en la Sainte Vierge cet amour maternel dont elles ont été privées trop tôt, très jeunes ?
Sûrement que Marie a eu une place privilégiée aussi pour ça. Et c'est intéressant parce que les religieuses de l'Assomption, quand on fait notre premier engagement, les premiers vœux, on choisit toujours un mystère. Et Thérèse Emmanuel avait choisi comme mystère la Mère de Dieu. Et donc, ça dit quelque chose de ce qu'était Marie pour elle. Parce que le mystère, c'est ce qu'on prend, ce qui est le plus important du mystère de la foi. C'est ce qui nous marque le plus. Et c'est vrai aussi que pendant jusqu'au Concile Vatican II, chaque sœur avait soit Marie dans son prénom, soit Marie dans son mystère. Donc, ce qui veut dire que, voilà, Marie était...
Elle était omniprésente dans leur vie, oui. Ouais. Daniel Pezet ?
Oui, ces deux sœurs très différentes, en fait, se retrouvaient dans cet amour pour Marie. On avait mené une petite étude pour essayer de voir, justement, dans les écrits de Marie-Eugénie et Thérèse Emmanuel, comment on pouvait retrouver, effectivement, cette dévotion. Et on voit qu'on le retrouve pour toutes les deux, pour Marie-Eugénie et Thérèse Emmanuel. Marie, c'est un chemin d'humilité, de simplicité, de pureté. Alors, on trouve, ça serait trop long de donner toutes les citations, mais Marie-Eugénie, si je savais prendre comme elle toujours la place d'une pauvre servante, j'ai vu là mon orgueil, je veux en sortir. Voilà. Aussi, de cet amour pour Marie, une mère protectrice, un réconfort. Là, Marie-Eugénie, elle le dira, Dieu me donnait la Sainte Vierge pour protectrice. Ils verront l'une et l'autre, Marie, un exemple, un modèle, une présence. Marie-Eugénie, il ne suffit pas d'honorer la Sainte Vierge, il faut encore lui ressembler. Voilà. Et ça, ces textes-là, c'est effectivement des écrits pour les sœurs, pour toutes les communautés.
Et puis on imagine aussi une lueur d'espérance. Enfin, la Sainte Vierge les a certainement fait tenir dans cette... Parce que c'est pas rien de créer une congrégation. Enfin, moi, je suis pas la mieux placée pour vous en parler, mais on imagine quand même ce chantier qu'il faut entamer. On part de rien, il faut créer une congrégation.
Et dans le monde entier.
Et dans le monde entier. Vous parliez de la règle hier, 50 ans pour faire... valider en quelque sorte la règle par le pape. Il faut tenir, il faut pas perdre courage. On imagine comment elles ont pu se ressourcer en Marie quand même.
C'est là où Marie est vraiment un modèle de foi, ouais. Parce que elle avec le Seigneur Jésus là, c'était aussi tout un cheminement assez inattendu, assez plein d'inconnus, plein de surprise quelque part. Et c'est vrai que pour Marie-Eugénie, ben Marie était ce modèle de foi, d'espérance, de charité qui les guidait. Et je pensais qu'il les aidait à ne pas se décourager devant les obstacles, devant les difficultés rencontrées.
Vous évoquez le monde entier, Daniel Pezet. Est-ce que la Sainte Vierge n'a pas justement été ce pont pour pouvoir aller... étendre un peu la congrégation. La congrégation est présente aujourd'hui sur 4 continents. Hein. Est-ce que c'est pas plus facile quand même quand on passe par la Sainte Vierge?
Ben oui, la Sainte Vierge, elle a dit oui. Et Marie-Eugénie et Thérèse Emmanuel, elles savaient dire oui et prendre des risques. Et puis parfois affronter des épreuves. Hein. Je pensais à l'Afrique du Sud où il y a eu des difficultés. Je pense que c'était vraiment... Et là, Thérèse Emmanuel et Marie-Eugénie ont fait front. Et je pense qu'effectivement, c'était dans la prière à Marie, dans cette dévotion, qu'elle trouvait les forces pour réagir.
Mmh. Vous évoquiez le passage de Marie-Eugénie à Bétharam au début de cet entretien. On peut rappeler quand même aux auditeurs que quand vous avez ouvert ce jubilé à l'automne, vous avez proposé une marche à Bétharam avec des personnes attachées au Centre Assomption et puis des personnes du diocèse de Tarbes-Lourdes et même au-delà, justement pour rappeler un peu la dévotion à Marie de Marie-Eugénie, mais aussi le rôle qu'a joué Bétharam. Comment ça s'est passé? Ça, peut-être on peut en redire un mot.
Ça a été une très belle journée parce qu'en plus on a eu un temps super. Et c'est vrai que c'était très chouette de marcher de Lourdes à Bétharam. Bon, ça fait une marche de 16-17 km, pas trop difficile. Et c'était l'occasion de faire ce lien entre ces deux sanctuaires mariaux qui nous apportent chacun quelque chose, chacun sa manière, quelque part. Et les gens qui étaient là, ce qui m'a touchée, parce qu'on n'a pas fait forcément de grand temps de prière pendant la marche, mais tous ceux qui ont marché en portant une intention. En portant une personne dans leur cœur pour à présenter à Marie, au Seigneur par Marie.
Puis c'était une belle occasion de rappeler justement l'histoire de Marie-Eugénie, de dire on va se mettre dans les pas de Marie-Eugénie, de rappeler l'histoire de Bétharam, de rappeler aussi que si Marie-Eugénie a tant aimé Bétharram, puisqu'elle est venue deux fois, et il faut se souvenir qu'on est au 19e siècle, hein, quand on vient en pèlerinage à Bétharram, il faut venir. Hein, c'est pas,
il n'y a pas de train encore.
Alors le train n'arrive à Lourdes qu'en 1866, et donc il fallait reprendre des risques. Donc en fait, de se souvenir que Marie-Eugénie avait beaucoup aimé cette vallée du Gave, et quand, donc après 1858, quand les évêques qui vont se succéder dans ce diocèse vont appeler les communauté, pourquoi Marie-Eugénie est toute prête à dire oui, on va installer notre congrégation à Lourdes. Et donc c'était aussi le moment de rappeler l'histoire de la communauté de Lourdes.
Voilà, et bien une histoire dont on parlera plus en détail demain avec vous, Daniel Peset, Sarah. On vous retrouve demain pour poursuivre et terminer cet entretien. À demain.
À demain.